Combien d'Africains avec Aïssa Diamé?
Annoncé avec la deuxième invitée de la matinée, j'accueille sur le plateau d'Africa Radio Marie-Andrée Siprut. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, ethnothérapeute. Vous êtes originaire de la Martinique et vous arrivez en métropole à l'âge de 12 ans. Et votre travail tourne autour des problématiques de l'interculturalité et de la migration. Vous êtes venue aujourd'hui avec votre casquette d'auteur. Vous êtes venue nous présenter votre dernière publication, Fille d'Ariane des Antilles et d'ailleurs, paru aux éditions Fortuna. Un ouvrage à travers lequel vous évoquez l'évolution des femmes d'ailleurs, tant au niveau historique que sociologique, à travers leurs cultures diverses, de la préhistoire à nos jours. Et le constat que vous faites, c'est que les femmes partagent des destins similaires en bien des points entre combat et résilience. C'est bien cela? Bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour, merci de me recevoir. C'est tout à fait ça, voilà, je suis tout à fait en phase avec ce que vous venez de dire. Et en fait, si j'ai écrit ce livre, c'est le énième, c'est le cinquième à vrai dire.
Ouais.
Mais mon travail en tant que psychologue, ethnopsychologue, m'a fait rencontrer énormément de femmes.
Ouais.
Et c'est en fait la conclusion que je tire de ces rencontres qui étaient à la fois douloureuses, mais positive au final et qui m'ont montré combien on peut se sortir de situations qui sont au premier abord désespérées.
D'ailleurs, ce titre « Fille d'Ariane », vous avez voulu justement tirer un fil inspiré par ce fameux fil d'Ariane. Alors pourquoi cette référence à ce mythe ?
Écoutez, je me suis un petit peu amusée en partant de ce mythe d'Ariane, cette déesse descendue sur Terre sous forme humaine,
ouais,
qui a sauvé le peuple des Athéniens en donnant à Thésée, le fils du roi Minos, un fil pour sortir et tuer le Minotaure.
Ouais.
Parce que le roi Minos, c'était un roi d'Athènes qui, pour montrer sa puissance sur les Athéniens et surtout il était un roi de Crète.
Ouais.
Et il a enfermé le Minotaure, qui était un homme à tête de taureau, et pour lui donner tous les 7 jours, suivant ses désirs et son caprice,
ouais,
sept jeunes gens et 7 jeunes filles pour venger la mort de son fils, pendant la guerre.
D'accord.
Alors voilà, donc ce Minotaure était en train de détruire le peuple athénien. Et alors, le roi Thésée est arrivé pour essayer de sauver son peuple en tuant ce Minotaure. Et voilà qu'il rencontre Ariane sur l'île de Crète.
Ouais.
Et elle, il tombe amoureux et elle lui donne ce fil pour pouvoir se sortir du labyrinthe.
Ouais.
Et elle lui donne aussi une épée, une dague pour tuer le Minotaure. Et ce qui fait que pour cette fois-ci, cet effort a été mené à bien et il a tué le Minotaure. Seulement, le deal était qu'il se marie après, qu'il,
ouais,
l'épouse.
Ouais.
Et voilà qu'il sort de vainqueur de cet exploit et il s'en va et il abandonne Ariane. Alors donc ce mythe m'a parlé en tant que femme et je vois Ariane qui est à la fois héroïne puisqu'elle sauve un peuple.
Héroïne trahie.
Et elle est trahie parce qu'elle est abandonnée par celui qui avait tenu la promesse de l'épouser. Voilà, donc ce sont ces deux aspects de femmes à la fois héroïnes et victimes qui m'ont servi d'exemple pour montrer que beaucoup de femmes sont dans la même situation.
Vous dites, ce fil d'Ariane, justement, c'est le symbole des femmes qui, même au bord du gouffre, se relèvent. Ces femmes de tous les pays qui, malgré leur détresse ou leurs difficultés, trouvent des solutions. Quand on croit qu'elles sont désespérées, elles se remettent sur pied, elles se redressent. Vous parlez donc pas mal de la résilience de ces femmes antillaises, africaines ou de l'Océanie dans leur parcours de migration. Les femmes antillaises qui ont dû être très fortes pour gérer le quotidien de leur famille. À l'époque, déjà, tout reposait sur la femme, vous l'expliquez bien. C'était une société matriarcale, car les enfants portaient le nom de leur mère pendant la période esclavagiste notamment. Ce sont des femmes qui ont dû être résilientes pour rester en vie.
Oui, alors je suis partie des femmes antillaises, parce que moi je suis antillaise, et je suis partie de l'histoire des Antilles, qui est une histoire absolument dramatique au départ, mais qui maintenant est une très belle histoire, parce que tout ce mélange d'esclaves et de maîtres, de colons et d'esclaves, a donné une population qui se définit comme population métissée et donc qui forme qui a sa nouvelle civilisation, ses nouveaux projets, donc de la détresse du gouffre est né un peuple qui est généreux, magnifique et Édouard Glissant, le philosophe, est parti de ce constat pour dire que la créolisation, le métissage entre colons et esclaves de départ a donné un peuple nouveau, quelque chose de complètement nouveau, et que en regardant tout ce qui se passe dans le monde actuellement, finalement, c'est la même chose qui se produit à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'avec les rencontres de civilisations, de cultures nouvelles, de personnes nouvelles, les gens se rencontrent, s'allient, se battent, mais se réconcilient. Et voilà, on a une créolisation mondiale à l'image des Antilles, de ce petit bijou qu'est l'art antillais.
Et pour l'illustrer, vous utilisez d'ailleurs un terme créole, potomitan. C'est la femme qui reste debout, c'est la femme pilier.
Oui, la femme. Alors aux Antilles, c'est quasiment quelque chose de c'est comme un proverbe, quoi, comme la femme potomitan. Ouais. On sait tout de suite ce que c'est, quoi. C'est une femme qui est debout, hein. On dit aussi la femme d'Ubout. Ouais, et c'est une femme qui prend en main son destin et celui de ses enfants. Et même celui de sa famille, parce qu'elle a justement eu l'habitude de se battre, quelles que soient les circonstances. Et alors, cette femme, elle est à la fois mère, elle est à la fois... elle se débrouille pour subvenir aux besoins de ses enfants, et elle a, en fait, elle tient les rênes du foyer.
C'est aussi une femme qui s'oublie un petit peu. On a l'impression que, du coup, première levée, dernière couchée, toutes ses responsabilités, la famille également qu'on porte à bout de bras. Et voilà, dans tout ça, est-ce que ce ne sont pas aussi des femmes qui s'oublient un petit peu, qui se mettent un peu en retrait ?
Et oui, alors justement, elles se sacrifient un peu. Hein, ouais, ce sont un peu des Ariane. Mais en même temps, elles sont... elles ont la clé. Hein.
Ouais.
Elles ont la clé. Et ce sacrifice leur donne une force, la force d'avancer. Et donc, elles ne sont pas seulement victimes, elles sont actives. Elles sont héroïnes, parce que ce sont elles qui trouvent les solutions, et qui les transmettent. Mais je ne veux pas dire par là que les hommes sont nuls. Et je veux dire par là que elles ont l'habitude de se sortir des situations et de trouver les solutions alors que c'est désespéré. Alors que du côté masculin, l'histoire nous a montré que l'homme aux Antilles, au moment de l'esclavage, n'était pas présent.
Oui. occupé aux travaux,
il était dans les champs et même les enfants n'appartenaient pas à l'homme, ils appartenaient au maître.
Ouais.
Alors donc il y a une espèce de d'héritage négatif de la colonisation qui fait que l'homme antillais a eu du mal. Je pense maintenant ça évolue, hein, ça évolue énormément.
Ouais.
Mais c'est ça qui a donné aux femmes la. Bah, elles n'avaient pas d'autre choix que de se sortir elles-mêmes des situations, étant donné que les hommes ne pouvaient pas les aider. Et alors donc, mais je parle des Antilles comme parce que je connais bien cette population, mais ça se passe un peu partout. C'est ce qui est ce qui m'a vraiment intéressée dans
aussi,
le livre,
notamment.
C'est qu'en Afrique aussi, en Asie, enfin bref, les femmes en général, malgré leurs situations qui sont différentes et leurs cultures différentes, elles ont ce fil qui fait que elles font des choses pour trouver une solution à tout prix.
Des femmes qui réussissent à s'adapter même dans un contexte de métissage et de migration. Vous parlez d'ailleurs du métissage, de ses aspects positifs comme l'ouverture sur le monde, mais aussi de ses problématiques, de ce que ça peut aussi susciter dans le regard de l'autre et de la manière dont on trouve sa place lorsque l'on a quitté son pays pour aller se chercher ailleurs.
Oui, et puis c'est tout à fait d'actualité hein, maintenant, avec tous les problèmes de migration. Hein. Mais voilà, c'est le problème du mélange, le problème du regard de l'autre qui est inconnu et qui suscite quelquefois l'admiration, souvent la peur, ce qui donne ces réactions tout à fait violentes quelquefois, et ce qu'on voit maintenant avec justement les flots de migration qui arrivent avec ces gens qui sont poussés par des problèmes culturels, de politiques, enfin bref, toutes sortes de douleurs qui les poussent vers l'étranger. Et là maintenant, je trouve que c'est important de dire que l'étranger n'est pas forcément l'ennemi. Et c'est ce que j'essaye de montrer dans mon livre et dans toutes mes publications, c'est qu'il faut accueillir l'autre, même si on ne le comprend pas, même si on ne saisit pas tout à fait ses motivations ou ce qu'il est, parce qu'on ne connaît pas tout le monde. Hein. Et Glissant disait qu'il fallait accueillir l'autre dans son obscurité. C'est-à-dire que je ne le connais pas, mais j'ai un regard curieux vers lui, mais ce ne sera pas un regard de rejet à premier abord.
Et d'ailleurs, vous dites que vous êtes convaincu que le métissage, justement, est peut-être une des voies qui peut conduire à plus de cohésion entre les peuples.
Oui, absolument. Mais pour l'instant, ça reste un vœu pieux, parce qu'on se bagarre tellement dans le monde. Mais je pense que c'est l'avenir du monde. C'est que si on ne se met pas en tête que quand on rencontre quelqu'un qui est différent, on doit avoir la curiosité d'aller plus loin dans la connaissance plutôt que de le rejeter au prime abord, eh ben notre civilisation va mourir. Je pense que c'est aussi grave que ça. Et je pense que les mariages biculturels sont une clé aussi pour donner ces regards plus positifs et surtout plus compréhensifs de la différence. Je suis pour l'éloge de la différence.
Alors Marie-André Cyprud, en quelques mots, vous êtes psychologue, psychothérapeute, vous êtes originaire de la Martinique, vous êtes cofondatrice en 95 et ancienne responsable clinique de Pluriel, c'est le centre de consultation ethnopsychologique pour migrants qui se situe à Genève. Vous avez nagé dans l'interculturalité depuis de nombreuses années, après des études secondaires à Paris, un double cursus universitaire à l'école d'interprètes, puis la faculté de psychologie avec Jean Piaget. français. Vous avez participé comme traductrice, enseignante de français pour étrangers avant d'ouvrir un cabinet de psychologie clinique parallèlement à votre collaboration avec un psychanalyste de Bâle, notamment. Alors, vous avez un parcours vraiment impressionnant. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé vers la psychologie et la psychothérapie? Vous êtes également ethnopsychologue, si j'ai bien compris.
Oui, oui. Eh bien, justement, c'est mon parcours migratoire, parce que j'ai un long parcours migratoire, comme vous l'avez défini. Et du fait, j'étais toujours l'autre, puisque je suis née à la Martinique, je suis venue en France, après je suis allée en Suisse romande, ouais. Ensuite Suisse allemande, ouais. Et j'ai beaucoup voyagé à l'étranger.
Ouais.
Donc, c'est ce parcours personnel de la rencontre avec l'autre différent qui m'a donné justement cette envie de partager et de montrer que on peut, vous voyez, je suis encore vivante et je suis encore, non seulement je suis vivante après toutes ces rencontres et tous ces voyages, mais je suis ravie d'avoir fait toutes ces découvertes. Et c'est ça que j'ai essayé de transmettre dans ma consultation ethnopsychologique à Genève. Parce que je trouve que les gens, ils arrivaient, ils ne connaissaient pas la culture suisse, encore moins. Et donc, même des choses complètement banales, comme la notion de l'heure.
Ouais.
L'heure n'est pas la même en Afrique, par exemple, qu'en Suisse. C'est-à-dire que... Et aux Antilles aussi. Hein.
Oui, c'est vrai. On a une,
autre conception de l'heure. La durée, l'heure, c'est une durée et ce n'est pas un truc objectif. Telle heure, ça doit commencer à telle heure, finir à telle heure. Et même ça, ça fait, et surtout quand il y avait les heures, l'heure d'été et tout ça, alors là, c'est les gens qui venaient d'ailleurs étaient complètement perdus.
Alors, comment on fait pour trouver votre ouvrage? Comment on fait pour en savoir un petit peu plus sur vous? Fille d'Ariane des Antilles, et d'ailleurs, c'est paru aux éditions Fortuna. Comment on fait pour se procurer l'ouvrage?
Alors, chez votre libraire.
En commande. Ouais.
Chez l'éditeur, Fortuna, je pense qu'il y a des exemplaires à la FNAC, mais pas dans toutes les FNAC. Donc, on peut trouver très, très facilement.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure?
Ben, j'ai envie de dire que je suis une des filles d'Ariane, mais les filles d'Ariane tendent leur fil entre elles, mais aussi vers les hommes. Et que toute cette histoire de femme n'est pas une histoire contre les hommes, mais une histoire qui nous montre qu'on doit avancer avec les hommes.
Merci beaucoup d'être venu nous parler un petit peu de vous et nous présenter votre dernier ouvrage. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, Fille d'Ariane des Antilles et d'ailleurs de Marie-André Siprut. Merci d'être venu ce matin sur le plateau d'Africa Radio. C'est la pause, on se retrouve juste après avec la pause et on va se retrouver juste après pour la chronique littérature. Aujourd'hui, c'est Thelmann qui va nous ouvrir un ouvrage d'Alain Mabankou. Ça arrive dans quelques minutes, bougez pas.